en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le lundi 31 mai 2010, devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance, Michel Prigent, président du directoire des éditions PUF, a dressé un panorama de la situation de l'édition française en sciences humaines et sociales. Sa communication s'intitulait « Les sciences humaines et sociales ont-elles un avenir dans l'édition ?» Écoutez-le maintenant.
Bien que le sujet soit original, on est tenté par l'idée de l'introduire grâce à de fausses banalités. De fausses banalités, comme tout d'abord l'idée simple mais oubliée, que quand on parle d'édition de sciences humaines, les professionnels, quels qu'ils soient, hésitent à employer le mot « produit », comme s'ils avaient peur du marché, des lecteurs. Imagine-t-on un homme de théâtre ayant peur de son public ? Or, ce sont des produits. Pour parodier un auteur constitutif des sciences humaines, ce sont des mots et des choses, c'est-à-dire des textes et des livres. Ce sont des acteurs, des éditeurs, des auteurs, des libraires, des bibliothécaires. Ce sont des institutions publiques et privées, le partenariat public-privé étant au centre de toutes les logiques de développement. Ce sont des événements de socialisation et de ritualisation dans le monde universitaire international, notamment les colloques et les séminaires. Ce sont des savoirs ou des disciplines en cours de constitution ou de critique dont il convient de définir le périmètre, les nouvelles frontières et, en cas de conflit, la géopolitique. Et enfin, pour revenir au point de départ, ce sont bien entendu des publics. Bien que le titre renvoie a priori, sinon à l'immédiateté, du moins à l'actualité, j'ai le sentiment qu'on peut se croire autorisé par la règle de droit qui, en propriété intellectuelle, fonde la durée d'exploitation de l'œuvre pour remonter un peu le fil des temps. La règle de droit est connue de tous. Elle fait d'ailleurs partie des difficultés actuelles que rencontrent tous les acteurs de ce qu'il est convenu la chaîne du livre. C'est qu'une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la disparition de son créateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des auteurs aussi essentiels à la constitution du Fonds de sciences humaines du XXe siècle que Freud et Bergson se trouvent entrés presque en même temps, en janvier 2010 et en janvier 2012 dans le domaine public. On a donc plus ou moins le droit de faire une relative rétrospective pour comprendre précisément et interpréter l'extraordinaire profondeur de champ des sciences humaines. Cette rétrospective historique, elle aura peut-être l'air, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, d'une litanie, manière faussement habile de dire que ce serait une compilation, mais en fait, outil pour rappeler à la mémoire collective les signes et les symptômes de ce qu'il faut bien appeler une clinique, puisqu'il y a une crise et une maladie des sciences humaines. Avec, à mon sens, quatre périodes déterminantes. Celle des pionniers, 1945-1950, celle de la conquête, 1960-1967, la date est choisie un an avant une autre, celle des doutes et des déconstructions, y compris celle que n'attendaient pas les déconstructeurs, 1978-1986, et la décennie de tous les périls, celle qui s'est achevée à la fin du dernier siècle et du dernier millénaire, où tout est remis en cause, où tout est redistribué et risque d'être perdu avant, bien entendu, d'être regagné. La période des pionniers, au fond, il suffit, et comme tous ceux qui travaillent sur l'édition, on se réfère entre autres à l'excellente chronologie qu'avait publiée Pierre Nora dans Le Débat, qu'il a réédité à différentes reprises en l'actualisant, il suffit de faire défiler, j'allais dire comme au théâtre ou au cinéma, des galeries de portraits et d'entendre ici ou là quelques noms. Entre 45 et 50, en choisissant presque au hasard, la création de la revue La Pensée, le colloque autour de Jean Beaufret sur les confluences entre l'existentialisme, le marxisme et l'humanisme, les origines de la pensée chez l'enfant d'Henri Vallon, le nouveau démarrage des nouvelles littéraires, la création des temps modernes, la renaissance à l'issue de la résistance du Seuil, la création de la revue des Annales, la fondation de la Caisse des Lettres, preuve de l'engagement de l'État républicain au service d'une culture partagée, la création au seuil des cahiers internationaux de sociologie, le lancement de Lagarde et Michard, fête sociologique et littéraire d'une influence considérable, la fondation de la 6e section de l'École pratique des hautes études, derrière Lucien Febvre et Fernand Braudel, la création de les libertés de l'esprit, par Raymond Aron, la fondation des NMPP, dont on parle beaucoup actuellement, et on pourrait continuer, la leçon inaugurale de Claude Lévi-Strauss sur les structures élémentaires, le travail qui va être la base de sa leçon inaugurale sur les structures élémentaires de la parenté, la leçon inaugurale de Dumézil au Collège de France, le premier numéro de France Observateur, etc., etc. On pourrait multiplier, mais j'ai choisi volontairement des individualités qui ne sont pas encore des gourous, des institutions qui sont celles de la République et de la Reconstruction après les années de guerre, des effets de presse et de sociologie qui sont des entraînements de marché considérables et des outils de formation générationnelle qui vont conditionner l'accès au texte. Évidemment, la déformation du littéraire que je suis à l'origine vaut pour Lagarde et Michard. Si on saute de 1950 à 1960, on peut, pendant la décennie qu'on parcourt volontairement très vite et dont presque on ne cite rien, noter que c'est le grand mouvement à la fois sociologique et démographique, peut-être idéologique et politique, qui va créer les bases économiques et culturelles d'un très grand marché des sciences humaines et des sciences sociales, d'abord par la démographie universitaire, qui progresse considérablement par le nombre des étudiants, par le nombre des institutions, par le nombre des professeurs qui progressent très vite. Et si vous me permettez de poursuivre la même méthode, c'est bien d'une période de conquête qu'il s'agit. Là encore, les noms sonnent effectivement comme non seulement des travaux de pionniers, mais une offensive culturelle et politique de très grande ampleur. Bien entendu, je l'évoquais tout à l'heure, la leçon inaugurale en 60 de Lévi-Strauss au Collège de France, le premier numéro de Tiers-Monde, et bien entendu, je joue sur la coïncidence, non pas pour choquer, mais pour surprendre, donc conduire à observer, en même temps que Tiers-Monde, la naissance de Télé 7 jours, c'est-à-dire l'écran au secours du papier, à moins que ce ne soit le papier au secours de l'écran, au même moment. La phrase célèbre de Sartre, le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps, le texte de Claude Simon, le premier numéro d'Harakiri, est-ce que nous sommes loin des sciences humaines ou est-ce que nous sommes dans la culture de la dérision qu'on retrouvera plus tard? Le succès international considérable d'Hitchcock à travers Psychose, la vision anglo-saxonne de la psychanalyse d'inspiration freudienne et son possible détournement, la montée en puissance, je l'évoquais tout à l'heure, du nombre de postes à la 6e section de l'École pratique des hautes études, une institution universitaire qui prend une ampleur considérable et, pour citer un travail universitaire parmi d'autres, la soutenance de thèse de Foucault, dont on oublie que le patron a été Canguilhem. Et si on suit cette période de conquête, on voit qu'il y a évidemment, comme tout à l'heure, des auteurs, des institutions, des personnalités, mais surtout les structures porteuses de l'édition se mettent en place. C'est-à-dire l'économie révolutionnaire des sciences humaines est en route par des outils qui modifient complètement l'équation, c'est-à-dire la création massive des collections de poche. La collection de poche d'inédit la plus ancienne est que sais-je, mais elle n'est pas exclusivement une collection de sciences humaines. Se crée à peu près au même moment la collection Idées chez Gallimard, dont les premiers auteurs sont Sartre, Camus et Freud, la petite bibliothèque Bayeux qui reprend l'essentiel du fond, dont les grands auteurs de psychanalyse et de sciences sociales, la collection 10-18. Et puisque je citais que sais-je, presque au même moment, Louis Bodin rédige le que sais-je sur les intellectuels. Ce n'est plus la construction de la figure de l'intellectuel à partir, entre autres, de la vision historique liée à l'affaire Dreyfus, c'est la mise en avant démocratiquement. Pourquoi démocratiquement? Parce que le poche permet de publier à des prix très bas soit des nouveautés, soit des rééditions, et de traduire très rapidement. C'est au même moment, d'ailleurs, avec des effets d'anticipation, que les textes majeurs de Barthes et de Foucault sont publiés et qu'en mai 63, le colloque de Royaumont a pour thème les intellectuels et la culture de masse. La question centrale est bien celle de la massification, sociologiquement dans l'université, sociologiquement ou culturellement en dehors de l'université. Et puisqu'on est dans la massification, l'un des signes qu'on peut avoir en tête est la création du premier carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois. Harakiri, carrefour, est-ce que nous sommes dans les sciences humaines ? Oui, pour la culture de la dérision et de la critique. Oui, pour le marché de masse, comme Télé 7 jours. Carrefour deviendra l'un des acteurs les plus importants de la diffusion et de la distribution du livre. Or, le livre n'y est pas encore présent, bien entendu, il sera présent beaucoup plus tard, mais les structures sont en place systématiquement pour que cette diffusion puisse se faire massivement. En même temps, les batailles constitutives des sciences humaines, je n'ose dans cette enceinte dire les règlements de compte, mais j'en ai presque l'envie ou la tentation, sont au premier rang. Lacan est exclu d'une société de psychanalyse à laquelle il a beaucoup contribué. Le texte de Rob Grier sur le nouveau roman est un texte de polémique. Les premiers séminaires de Jacques Lacan et Louis Althusser, quelquefois ensemble, rue d'Ulm, sont significatifs. Les revues qu'on voit monter en puissance, dont on voyait la création tout à l'heure, rentrent dans le débat, quelquefois dans la querelle, un numéro spécial d'Esprit qui a pour titre, entre autres, « Faire l'université », dont les deux acteurs principaux sont Althusser et Bourdieu. On voit derrière la massification, derrière l'extension qui est en train de se produire, on voit un certain nombre de mécanismes se mettre en place et on voit les querelles émerger dans la presse qui relaie vers le grand public les sciences humaines par le numéro spécial et le colloque du Nouvel Observateur, la querelle autour du poche pour la culture de consommation. Au même moment, comme par hasard, bien entendu, les héritiers de Bourdieu et Passeron, c'est-à-dire qu'on passe progressivement d'une analyse sociale ou politique, d'une tentative d'interprétation d'un certain nombre de phénomènes, à des prises de position politiques et idéologiques de plus en plus marquées, au moment où, parallèlement, les sciences exactes et la médecine, qui étaient peu présentes dans le territoire des sciences humaines, arrivent d'une manière significative. C'est la création de la chaire de génétique cellulaire pour François Jacob au Collège de France. On voit donc presque toujours des problématiques, des individus, des institutions, des relais sociaux de masse, dont la presse, qui se mettent en place systématiquement. Et on pourrait continuer à l'infini quand on voit comment le mouvement pénètre en 1966 les éditeurs scolaires. Larousse, qui est l'un des grands éditeurs scolaires, qui l'est toujours, lance la revue Langage avec Todorov, Barthes et Grémas. Donc, on voit les structures partout se mettre en place. Bien entendu, en 1966 également, Foucault publie Les mots et les choses. On pourrait continuer comme cela à l'infini. Et on pourrait voir, enfin, les structures de la presse se consolider. C'est le premier numéro du magazine littéraire. Sans oublier, bien entendu, et je m'arrête volontairement avant 68, le texte de Guy Debord sur la société du spectacle et la reprise de l'analyse par les situationnistes. Les pionniers ont travaillé, la conquête est à l'œuvre. À nouveau, si vous le voulez bien, passer rapidement sur 10 ans, un peu plus. Que se passe-t-il quand on revient au temps du doute? Le temps du doute, c'est celui qui trouvera probablement son acmé pour beaucoup de choses, certainement pour les sciences humaines. C'est à l'échelon franco-français le bicentenaire de la Révolution française, c'est à l'échelon international la chute du mur, donc la chute d'un certain nombre de grandes illusions. Avant 1978, on sent les craquements qui apparaissent petit à petit. Les nouveaux philosophes, qui, plusieurs textes en témoignent, ne se pensent pas comme le nouveau roman ou comme la nouvelle vague, mais se pensent comme un retour autocritique sur les illusions du passé. À peu près au même moment, la création du Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés, qui prolonge évidemment le travail qui avait été engagé pour venir en aide aux opposants à la dictature soviétique. À peu près au même moment, dirigé et lancé par Raymond Aron et Jean-Claude Casanova, la création de la revue Commentaire. Toute une série de signes apparaissent, et quand on commence à creuser un certain nombre de choses, avec la même méthode, si je ne vous accable pas en la maintenant, le texte de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, quoi qu'on en pense, c'est un signe de craquement. La préface de Furet, François Furet, à l'édition de Poche de Tocqueville, est-ce qu'on attendait forcément en 1978, 11 ans avant le bicentenaire, François Furet là-dessus. La mort de Lacan est le numéro 1 de l'âne. Le maître est mort, mais les disciples essaiment dans le monde entier. Le premier salon du livre, 120 000 visiteurs. Là encore, la démocratisation médiatique et sociologique devient une démocratisation physique. Et un peu plus tard, très rapidement, le point clé de 1981, qui est peut-être l'élection de M. François Mitterrand à la présidence de la République, pour l'édition de Sciences humaines, est certainement l'élément décisif de la loi sur le prix unique du livre, loi qui existe toujours aujourd'hui et dont on disait dès le départ, malgré son adoption pratiquement à l'unanimité par le Parlement, qu'elle était une loi corporatiste et inflationniste, alors que la suite montrera qu'elle n'a été ni l'un ni l'autre. Quant aux événements, aux auteurs, aux personnalités, aux institutions, parfois aux gourous, on voit qu'ils changent petit à petit. Le centenaire de Marx organisé au CNRS n'intéresse que peu de monde. Le centenaire de Darwin est un succès. L'érudition n'avait aucun intérêt. Je plaisante. Le roman de La Rose, dont La Rose est un succès. Pourquoi ? La génération était conquérante, le texte de Goupil mourir à 30 ans. Génération perdue. En un mot commençant, tout ce qui était construit, élaboré, en philosophie, en psychanalyse, en ethnologie, en anthropologie, partout, tout ce qui était démocratisé par la culture scolaire, par la culture de masse, par les succès qui s'accumulaient les uns derrière des autres, tout ce qui s'était accumulé, d'un seul coup, craquait doucement, avant même la célébration du bicentenaire, avant même la chute du mur. Et ce n'est pas un hasard si, toujours Pierre Nora, je continue de m'appuyer sur certaines de ses hypothèses, considère que l'année 82 est déterminante, en soulignant que c'est l'année où tous les éditeurs se mettent à penser les concepts de dictionnaire. Comme si l'époque était close ou en voie de se clôturer, comme s'il fallait tourner la page, comme si les grands noms disparaissant les uns derrière les autres, il fallait mettre l'ordre des sciences humaines dans un ordre alphabétique. D'autant plus que les craquements intellectuels et idéologiques continuent de s'amplifier. C'est comme un tremblement de terre qu'on mesure petit à petit, ou si on préfère une autre métaphore, ce n'est pas celle du thermomètre, c'est celle du baromètre, qui anticipe les changements de pression. La création de la Fondation Saint-Simon, le succès du livre de Claude Nicollet sur l'idée républicaine en France. Et puis, les vrais retournements très en profondeur qui se produisent les uns derrière les autres, qu'on n'attendait pas non plus, entre autres, bien entendu, les textes de Carole Polanyi qui sont traduits, et un texte essentiel de 1944 est traduit en 1983. C'est là qu'on voit les effets de décalage et l'impact, dans le métier propre des sciences humaines, de, au fond, l'isolement de, à la fois, l'édition, l'université et l'intelligentsia française par rapport à la durée. Des textes considérables qui sont publiés dans les années 40, 50, 60 aux États-Unis sont souvent traduits en allemand, quelquefois même en russe, dans un certain nombre de langues, en italien et en espagnol souvent. Ils pénètrent l'Amérique latine. On le voit avec les querelles autour de Lacan et de l'interprétation de la psychanalyse. Certains textes, quelquefois comme par hasard d'inspiration libérale, sont traduits avec 20, 30, 40 ou 50 ans de retard. Et au fond, leur influence dans le débat français est décalée d'autant par rapport à l'influence qu'ils ont eue à l'époque dans le monde anglo-saxon. Ils sont décalés par rapport aux universitaires, ils sont décalés par rapport à, au fond, leur poids dans les débats historiques et politiques. D'autant que les textes qui allaient tous dans un sens sont en train de se retourner, y compris, pour ne prendre qu'un exemple et le rapprocher de Debord, l'ère du vide de Lipovetsky. Si j'avais mauvais esprit, je considérerais qu'on frôle l'autobiographie. Si je n'ai pas mauvais esprit, je suis obligé de constater que les craquements se font de plus en plus forts, les uns derrière les autres, et que le paysage se recompose d'une manière extrêmement vive, en même temps que paraît, la date est importante sans doute, en 85, un mot essentiel à mes yeux pour voir et comprendre ce qui se passe, y compris par sa connotation volontairement et faussement religieuse, le livre de Marcel Gaucher, Le désenchantement du monde. Le monde a été enchanté, il y avait plusieurs petits Merlins. Les petits Merlins n'ont pas tout à fait réussi, ils ont même dans la plupart des cas assez fortement échoué, et il y a un moment où le monde est désenchanté. Il y avait une espèce de fantastique magie qui s'était mise en place progressivement, avant que les craquements dans les idées et dans les têtes ne deviennent des craquements dans les faits, évidemment autour de la chute du mur. Et en réalité, même quand on pense à un titre remarquable comme Les sanglots de l'homme blanc, les acquis les plus sûrs, acquis entre guillemets, de la colonisation, donc de la décolonisation, apparaissent comme en voie d'effondrement. Et c'est comme par hasard au même moment que paraît, sous la signature de Luc Ferry et d'Alain Renaud, La pensée 68. Au fond, ce mouvement de pionniers, de conquêtes et de doutes ne pouvait conduire qu'à une décennie, le terme n'est pas savant, mais je l'emploie volontairement, épouvantable, c'est-à-dire la décennie 90, qui en réalité, alors que les jeux se reconstruisent idéologiquement et politiquement dans le monde entier, et pour les sciences humaines et pas seulement en France, comme pour l'ensemble de l'édition, une année extraordinairement difficile, où nous avons heureusement la chance d'avoir de nombreuses études qui datent l'ensemble des phénomènes. 91, 94, 97, Il suffit de prendre les titres de toute la presse et de regarder les courbes. Le chiffre d'affaires baisse, le nombre de titres augmente, les tirages diminuent, les marges s'effondrent, les concentrations capitalistiques par l'édition ou par les distributions se font de plus en plus vite. Au fond, pour citer l'un de vos confrères, M. Raymond Boudon, sur le relativisme a finalement gagné. L'autre expression que M. Boudon n'accepterait pas et que je traduis volontairement avec un léger souci de provocation, c'est le consensus mou, puisque plus rien n'est ni beau, ni vrai, ni juste, ni injuste, que tout se renverse à l'infini, effectivement. Pourquoi se lancer dans l'édition, dans la publication ? On publie de plus en plus, on lit de moins en moins, on gagne de moins en moins d'argent avant d'en perdre de plus en plus. Et au fond, c'est à ce moment-là, comme par hasard, qu'apparaît le début de la révolution numérique, puisque c'est à peu près en 95-96 qu'émergent les premiers textes de Robert Darnton, qu'on retrouvera aujourd'hui face au débat de Google et patron de la grande bibliothèque d'Harvard. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais est-ce que dans ce climat de déréliction, de fatigue, de désenchantement, de crise économique aggravée, de concentration parfois violente, il y a encore un espoir. On ne voit pas l'espoir, mais l'outil est déjà en place pour permettre de comprendre ce qui va se passer. Car ce qui se passe, et c'est évidemment ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la décennie 2000-2010, c'est d'abord une gigantesque métamorphose du théâtre. Tout à l'heure, les choses étaient claires. Tout à l'heure, c'est 1945-2000, par commodité. Tout était clair. Des textes, des auteurs, des acteurs, des metteurs en scène, un producteur, un public. Quand on cherchait des noms, on pouvait avoir ses préférences et choisir Gallimard, Flammarion, Le Seuil, Grasset, Hachette, pourquoi pas les puffs, Sartre, Dumézil, Aron, Braudel, Lévi-Strauss, pas. Tout était très clair. Nous étions dans un périmètre de langue franco-français, mais dans l'universalité non pas d'un patriotisme économique et culturel tourné vers lui-même, mais dans l'universalité qui est la grande tradition depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire tourné vers l'international avec des grands noms où tout le monde se retrouvait. Et si nous commençons à parler la langue d'aujourd'hui ? Amazon, Google, Microsoft, iPhone, iPad, Windows, qui a l'air simple, qui ne l'est peut-être pas, Android, se croirait dans une mythologie reconstruite, on ne sait comment. Les repères étaient très clairs par rapport à la capitalisation culturelle qui était celle de tous les citoyens français ou de tous les citoyens du monde ayant accès à la pensée française. D'un seul coup, tout est en anglais et je cherche en vain dans tout cela un nom d'éditeur, un nom d'auteur. Des structures capitalistiques et opérationnelles, tout à fait respectables, des outils technologiques de communication de masse, encore plus respectables que ceux qui les fabriquent, des pièges, Windows, est-ce que c'est une fenêtre ? Pourquoi est-elle au pluriel ? Des monstres, Android, comme si nous avons besoin d'un Android, création de marketing originale au demeurant, pour nous avancer d'une manière ou d'une autre. Et la machine qui se met en route avec un piège dramatique qui est celui des deux mots dématérialisation et numérisation. Car comme toujours, il faut faire attention, comme aurait dit l'autre, aux mots et aux choses. La dématérialisation est un terme négatif. La numérisation est un terme positif. Autrement dit, entre Gutenberg et Steve Jobs, il va falloir que nous choisissions, et de préférence vite, parce que Steve Jobs n'attend pas, même si Gutenberg a encore un peu de temps devant lui. Et de même qu'il y avait le terme désenchantement, il y a un vocabulaire quasi religieux qui apparaît, que l'on voit progressivement, mais dont on ne souligne pas le caractère religieux. La conversion numérique et la rétro-conversion numérique. Il faut donc que nous nous convertissions. Et un converti, c'est celui qui abandonne l'ancienne croyance ou l'ancienne foi au profit de la nouvelle. Eh bien, nous allons donc nous convertir. Et on nous convertit de force. Les conversions les plus efficaces, paraît-il, sont celles qu'accompagne l'armée d'occupation ou d'invasion. Google numérise la quasi-totalité des textes hors droit dans le monde. Donc, la capitalisation mondiale de l'écrit hors droit se trouve d'un seul coup dématérialisée et numérisé. Je n'ai pas du tout une position négative. 1. C'est parfaitement légal. 2. C'est extrêmement utile. 3. C'est un simple constat de fonctionnement. Et en réalité, en même temps qu'on se pose ce type de question par rapport au patrimoine, il faut agir par rapport à l'immédiateté. Si j'étais bergsonien, je serais tenté par la métaphore durée et simultanéité. Il faut évidemment que dans le flux de production nouvelle, pas dans la rétroconversion numérique ou dans la rétroconversion juridique, puisqu'il y a celle des contrats, mais dans le flux de production nouvelle, tout soit numérisé et hiérarchisé et mis en ordre. C'est là probablement que l'édition de sciences humaines a sa première chance. D'abord parce que personne n'a oublié qu'Internet a été utilisé simultanément par les militaires américains et les universitaires, ce qui montre au moins que, pour une fois, l'outil général avait des origines que certains auraient pu critiquer. Et en même temps, la spécificité des sciences humaines est parfaitement adaptée par trois outils, les revues, les encyclopédies et les dictionnaires. Les revues sont perpétuellement en mouvement, avec une profondeur de champ historique quelquefois considérable, plusieurs dizaines d'années, souvent plus qu'un siècle. Les encyclopédies sont extrêmement adaptées. Est-ce un hasard si Wikipédia est l'un des succès mondiaux les plus marqués ? Et les dictionnaires sont évidemment des outils eux-mêmes extrêmement présents. Dans tous les cas de figure, on voit très bien que les questions vont se poser les unes derrière les autres. La première question est juridique, et voilà que revient le droit de propriété. La propriété, c'est le vol, comme chacun sait. Confère d'ailleurs la photocopie, la gratuité, l'accès gratuit en bibliothèque, etc. Le droit de reproduction en violation absolue de tous les textes internationaux et nationaux. La propriété, c'est le vol, dont acte, l'affaire est réglée, c'est un acquis, comme on dit dans certains endroits. Et d'un seul coup, le droit de propriété revient au premier plan, y compris dans le monde universitaire. Comment pourra-t-on parler d'open access quand on ne saura plus qui a écrit quoi? Qui a écrit quoi, quand, si j'ose parler aussi mal français. Et au fond, il faut repenser l'intégralité du droit de propriété, comme on le pense dans d'autres secteurs de l'économie. Deuxième question après le droit et le traitement des auteurs, d'où les polémiques actuelles, c'est-à-dire est-ce qu'on traite les droits d'auteur comme des droits dérivés ou comme des droits premiers. Deuxièmement, le modèle économique. Est-ce qu'il y a un modèle sédentaire derrière un ordinateur ou est-ce qu'il y a un modèle nomade derrière un iPhone ou un iPad? On voit bien quelles sont les différentes hypothèses et on pense tout récemment à la déclaration d'un de mes confrères, président d'Albin Michel, nous allons par l'iPad trouver des lecteurs qui ne viennent jamais en librairie. Ce qui est effectivement une excellente remarque, mais il y a ceux qui viennent en librairie, il y a ceux qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter tel ou tel support et qui sont dans les structures de consultation numérique par abonnement payant, bien entendu. En sachant que derrière cette question économique et derrière la question du droit de propriété, il y a la question du modèle culturel. Car l'idéologie de ce qu'on appelle quelquefois l'Internet participatif, c'est-à-dire le Web 2.0, conduit encore une fois à l'open access, c'est-à-dire à la dématérialisation de tout et de toutes les origines, et en même temps au piège à la fois mortel et extrêmement agréable pour certains, à la régulation aussi sauvage que sournoise de l'évaluation. Puisque tout est en ligne, puisque je ne sais pas qui a écrit quoi, puisque tout se vaut, il faut évaluer. Et on voit très bien comment se referme contre certains le piège du relativisme. Il faut bien à un moment ou à un autre qu'on repose les vraies questions. Elles sont juridiques, elles sont économiques, elles sont technologiques. Et comme le métier d'éditeur est un métier d'entrepreneur, il faudra bien à un moment ou à un autre se poser la question de la valeur ajoutée. Qui la crée? Quand intervient-elle? Comment? Qu'est-ce qu'il a produit? Et on voit effectivement, comme on le signale de plus en plus, qu'il y a bien un partage entre, au fond, ce qui relève de la structure d'accès aux connaissances, c'est-à-dire les guides de hiérarchisation et de mise en ordre des contenus, et on voit bien ce qui relève de la marque. C'est-à-dire qu'on retrouve, je suis là très proche d'un livre d'Olivier Bomzel sur l'économie immatérielle publié il y a quelques semaines par notre confrère Gallimard, et on voit très bien ce qui est en train de se dessiner, la question de la marque. Or, la marque, c'est le grand nom, le grand auteur, c'est le grand texte, je supprime l'adjectif, c'est l'éditeur, qui n'est pas forcément grand. Un grand texte, un grand auteur, un éditeur. C'est le triptyque gagnant de l'édition, c'est la structure de la logique de l'offre. Encore faut-il, et je pense en disant cela à M. Jean Ménard, l'esthétique classique nous a convaincus qu'il fallait plaire et toucher, encore font-il arriver à quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire d'informer et convaincre. Car la question de la plus-value, la valeur ajoutée, renvoie évidemment au contenu. Or, les contenus de la période fondatrice, de la période de création des marques, étaient des contenus, au fond, de pionniers, de construction, et sur une idée simple, le monde était forcément injuste, mauvais, mal fait, sans avoir été créé, puisque l'esprit était irreligieux, et il était urgent de le transformer. Il n'était pas important de le comprendre, il était urgent de le transformer. Les enchanteurs, les petits Merlin, ont donc transformé, avec le succès éblouissant que l'on sait. Et au bout de quelque temps, les transformateurs, si j'ose m'exprimer ainsi, j'emploie volontairement une métaphore électrique, les transformateurs se sont trouvés en panne. Et la crise des années 90, c'était certes une crise économique, une crise des modèles, une crise de bulle, où, comme diraient les financiers, ont passé son temps à constater des provisions pour dépréciation d'actifs, à tous les sens du terme, et il y a bien un moment où il faut reconstruire l'ensemble du schéma. Et il faut bien, au fond, se reposer toute une série de questions qui étaient, soit intellectuellement, soit philosophiquement, soit politiquement, avec tous les adverbes possibles, au premier plan et qu'on avait occulté. La question marxiste, la chute du mur invalide-t-elle définitivement le marxisme ? Si oui, pourquoi Badiou et Zizek ont-ils un succès considérable ? La question religieuse, Dieu est mort, nous avait-on dit. Si Dieu est mort, pourquoi se porte-t-il sous toutes ses formes aussi bien ? En particulier, dès le grand attentat de 2001. L'islam était un objet d'érudition. Pourquoi devient-il un objet de guerre générale ? L'histoire était terminée. Fukuyama nous l'a démontré. Les civilisations devaient être des chocs. Huntington l'a indiqué. Là, on retrouve encore le rôle d'une revue, évidemment, comme commentaire. Et le nouveau modèle des sciences humaines et sociales, au fond, est en train de se reconstruire aussi, par exemple, autour de la question religieuse, sans oublier que pendant cette période, l'œuvre d'un Ricoeur, puis d'un Lévinas, puis d'un Jean-Luc Marion, avait constitué des étapes tout à fait définitives, et qu'on est peut-être surpris de trouver Régis Debray parler de l'enseignement du fait religieux. La question de l'État-nation et la question de l'histoire, qui était, si on me permet la formule, par citation, dans les poubelles du même nom. Au fond, tout cela n'existait plus. L'histoire revient au premier plan. Actuellement, le succès considérable de Michelet, puis de Lavis. Qui aurait parié que les 17 tomes d'Histoire de France de Michelet seraient un succès ? Qui aurait parié que l'histoire de Lavis en 27 volumes pouvait être un succès d'édition ? Personne, la preuve, d'ailleurs aucun grand éditeur ne l'a fait. C'est un petit, ou un moyen, comme on veut qu'il l'a fait. Et petit n'est pas du tout, bien entendu, négatif. J'évoquais tout à l'heure le centenaire de Darwin et celui de Marx. Marx avait été oublié, Darwin se portait très bien. Ce n'est pas un hasard si la question de la Bible se trouve au cœur d'un certain nombre d'affrontements comme celle du créationnisme. Et on retrouve, après avoir trouvé Michel Foucault, élève de Canguilhem, on retrouve Dominique Lecourt, élève de Canguilhem et de Bachelard, sur des problématiques de ce genre. La psychanalyse allait être détruite par le comportementalisme et les sciences cognitives. Oui, dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il un regain de lecture considérable de Freud et autour de quelles problématiques ? En sachant que la question de la traduction, qu'on trouvait tout à l'heure pour d'autres raisons, revient au premier plan, y compris d'ailleurs de nouvelles traductions étrangères, et qu'au fond, face aux textes célèbres de Deleuze et de Guattari à la grande période entre guillemets, de l'anti-Œdipe, c'est bien la question de l'Œdipe originel, donc celle de Laplanche, analysée par Jacques Lacan, qui revient au premier plan. Jean Laplanche, philosophe, médecin, parlant de l'œuvre de Freud. On pourrait multiplier à l'infini et citer entre autres, bien entendu, Le malaise dans la culture, qui a un succès considérable, y compris sur support audio. Or, le support audio était considéré comme dépassé. Donc, on voit bien ce qui se passe actuellement. Et enfin, on pourrait en citer beaucoup d'autres, bien entendu, la question morale ou la question éthique. La question morale était une question bourgeoise. L'éthique était une superstructure construite à tel ou tel autre type d'infrastructure. Or, la question éthique revient au premier plan. Je pense à la phrase mise en avant récemment de Sloterdijk : la philosophie doit chercher à redevenir édifiante. Redevenir, serions-nous dans un paysage réactionnaire, édifiante, serions-nous revenus au catéchisme ? Pourquoi pas dans un cas comme dans l'autre, mais au fond, le désenchantement du monde, l'édification, la conversion, voilà dans un domaine laïque et républicain ou qui devrait le rester, voilà des métaphores de vocabulaire qui, au fond, montrent très bien comment les vrais enjeux de fond sont au premier plan, y compris, bien entendu, derrière tout cela, la recherche du bonheur, ou ce qu'on voit actuellement dans l'actualité, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, y compris immédiate, c'est-à-dire ce qu'on entend autour de l'éthique du care et du moment du soin. C'est un courant anglo-saxon, c'est un courant qui vient en France, et l'un des jeunes philosophes, Frédéric Worms, construit l'interprétation de la philosophie au moins pour l'Europe, et en tout cas certainement pour une France élargie au monde, autour du moment de l'esprit en 1900, du moment de l'existence en 1940, du moment structuraliste dans les années 60, et du moment du soin à partir de maintenant. Des questions sur le soin, où sont en première ligne les philosophes, les historiens, les psychologues, les sociologues, le statut des patients, les juristes, etc. Voilà des questions où se jouent, comme par hasard, les plus grands succès de presse, les plus grands succès de librairie, car tous les exemples que je viens de prendre correspondent à des succès d'édition, à des unes du Nouvel Observateur, du Monde, du Figaro, etc., tout pluralisme politique inclus, bien entendu, depuis 56 ans. À partir de la période 45-50 jusqu'à la fin du XXe siècle, puis sur la décennie qui est en train de se dérouler, et au fond, nous sommes au cœur du cyclone, mais comme chacun sait, c'est l'endroit le plus tranquille. Nous sommes au cœur du cyclone sans savoir exactement tout ce qui peut ou doit se passer. Et dans ce type de circonstances, pour continuer en étant un peu familier dans le vocabulaire à mener sa barque pour un éditeur de sciences humaines, il y a, je crois, très simplement un refus et deux convictions. Le refus, si je ne choque personne dans cette assemblée, sans complaisance, c'est celui du déclinisme et du pessimisme. Nous avons eu une idéologie de fausse conquête suivie d'une idéologie de justification des vrais replis. Il est plus que temps de se dégager et de l'un et de l'autre. Je pense à la phrase qu'affectionnent les philosophes et les littéraires, les grands écrivains qui l'imitent, « Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse ». Eh bien, c'est peut-être une certaine édition de sciences humaines et certains auteurs qui ont courbé ce qu'il ne fallait pas courber. Nous sommes de ceux qui préfèrent l'idée de progrès et l'éclairage par la raison. Et si M. Jean Ménard me permet de choisir une puissance trompeuse, je préfère l'imagination à la coutume. Nous avons eu les ravages de la coutume, c'est-à-dire de la reproduction satisfaite du même. Il est peut-être temps d'aller du côté de l'imagination. Dans ce paysage, les sciences humaines, comme d'ailleurs l'ensemble du monde de l'université, de la recherche et de l'éducation, a une position clé, puisque c'est celui qui détient la capitalisation de la valeur ajoutée 70 ans post-mortem de l'auteur. Le point de départ et le point d'arrivée se retrouvent, pas du tout par un effet de magie. Il ne s'agit ni de défendre la ligne Maginot du livre papier, ni de défendre la deuxième ligne Maginot de la langue française, mais tout simplement de considérer qu'il y a un patrimoine de statut scientifique international pour lequel il faut se battre, non pas par un esprit guerrier, mais par un esprit de droit, pour lequel il faut se battre en droit, d'où la force de la conviction. Et pour rassurer, là aussi malheureusement post-mortem, un grand éditeur qui était le président des éditions de Minuit, Jérôme Lindon, qui avait fait en particulier cet article remarquable qui reprenait la tradition américaine et celle de Schifrin, de l'édition sans éditeur. Et il craignait qu'on en arrive là. Nous avons failli avoir, ce qui est beaucoup plus embêtant, de l'édition sans auteur et de l'édition sans lecteur. Et en réalité, on se souvient de la définition que Disraeli donnait quand on lui demandait d'expliquer ce qu'était un conservateur. Je crois qu'il répondait que c'était un aventurier attaché à ses racines. L'aventure, c'est le numérique. Les racines, ce sont les auteurs et les textes.
Vous venez d'écouter Michel Prigent, président du directoire des éditions PUF, devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques en séance.